Cette année, Kurosawa a réalisé 3 films. Alors, on va revenir sur ces films dans l'ordre de leur sortie française. Le premier, c'était Le Secret de la Chambre Noire, donc, qui est sorti en tout début d'année. Un film assez original, vu qu'il l'a fait en France. Et je crois que Gaël, tu as plutôt apprécié ce film qui a reçu un accueil, on va dire, mitigé, y compris ici autour de cette table.
Oui.
Alors, pourquoi ?
Non, je trouve que. Il réussit très bien son adaptation dans un pays étranger, la France. C'est la première fois qu'il filmait en France. Et je trouve qu'il arrive à retranscrire son cinéma dans l'ambiance de ses films la province française.
Une grande banlieue parisienne.
C'est la province.
On voit bien ici.
Après le périph, toi.
Voilà, c'est après le périph.
Il prend le RER.
Pour moi, c'est. Ouais,
c'est
même
plus la France. Avec
notamment des SDF dans le RER. C'est quelque chose qui l'a certainement marqué.
Et donc, pour moi, il réussit ça. Et je trouve ça déjà très bien. Et par ailleurs, c'est toute cette histoire, en fait, sur cette. Cette jeune fille qui est photographiée selon les premières méthodes de photographie. Et je trouve ça assez fascinant en fait. Et alors, si je ne me trompe pas aussi, le film était tourné en numérique. Ce qui est assez drôle, c'est que il tourne un film en numérique pour parler de l'argentique. Et ça m'a rappelé le fait que Cairo, il avait tourné là en 35, et pour parler du numérique en fait. Donc c'est un film un peu un miroir versé en fait de Cairo sur cette façon de penser au cinéma. Donc je trouve qu'il y a énormément de choses intéressantes dans ce film.
C'est intéressant parce que j'ai l'impression que Kurosawa est un cinéaste qui sort assez rarement du Japon, à part ce film, Seven's Code. Du coup, c'est un cinéaste qui filme principalement le Japon. Je me trompe avec Efren?
Non, il a fait quelques films en du Japon, Seven's Code et c'est pas la chambre noire.
Du coup, un film et demi.
Est-ce que vous trouvez quand il filme en France, ça apporte quelque chose ou ça change complètement du coup sa vision sociétale donc vu que c'est quelqu'un qui parle du Japon et qui filme le Japon, Justin.
En fait, dans ces films japonais, je trouve qu'il y a quelque chose au niveau du rythme qui est un peu assez bancal, qui est assez étrange, qui dit quelque chose finalement par rapport au quotidien ou des moments un peu anodins par rapport à la société japonaise. Et là, je trouve que ça marche pas du tout dans celui-là. Où tout ce qui est l'histoire de fantômes, toute l'histoire autour de la photographie qui pourrait se dérouler n'importe où, là ça fonctionne avec les spectres qui surgissent, toute l'atmosphère un peu étrange. Par contre, tout ce qui est un peu lié, un peu plus directement ancré dans le paysage un peu social français, pour moi ça marche pas du tout. L'histoire immobilière, pour moi c'est imbitable. Ça n'en finit pas, c'est insupportable, c'est long.
Rappelle-toi la recherche de ce contrat.
Ça prend trop de place pour ce que ça raconte, c'est vraiment sans intérêt.
Pour rebondir dessus, moi je pensais à la base que ça se passera en huis clos. Est-ce qu'on se concentrait vraiment sur le côté très fantôme qu'il a créé au début du film au niveau de la photographie argentique, du daguerreotype, tout ça? J'aurais préféré qu'il se concentre vraiment là-dessus, qu'il crée vraiment un film en huis clos de fantômes avec ça. Et là, le problème, c'est que le film est parsemé de scènes en extérieur où on n'en a complètement rien à foutre tout le long, en fait. Genre dans le bar, l'entretien, rien à foutre, quoi.
Mais ça rentre dans la logique.
C'est vrai, c'est ce qui inscrit aussi le film dans ce quotidien français. Alors effectivement,
mais ça marche pas, en fait.
On voit Tarim aller voir un match de foot avec des potes, on le voit dans le RER, il y a un SDF dans le RER, mais du coup, c'est des observations d'un cinéaste japonais sur la France.
Ça marche pas du tout.
Ça marche peut-être pour un japonais.
On le voit noter presque ses observations dans un carnet.
Toi, t'es bien content d'un japonais aller aux zones commerciales ou acheter des trucs chez les piscines. Là, c'est pareil.
C'est bien en construire.
Voilà.
Merci Jérémy et Elvire.
Non, moi je suis d'accord avec Gaël sur le coup. Et même, j'avais parlé de l'histoire de format avec Kurosawa, justement, de technique et tout. Et il avait dit que, qu'en fait les nouvelles technologies et tout l'intéressaient pas plus que ça. Et c'est juste que les gens étaient habitués à voir. Enfin, les gens recevaient l'image comme les tableaux du 19e siècle et de toute façon ça allait pas changer, donc ils s'en fichaient du format ou des choses comme ça. Enfin, c'était pas des questions fondamentales pour lui, même si il prenait soin de travailler les couleurs et les choses comme ça.
L'autre élément intéressant, c'est qu'on est dans la continuité de Vers l'autre rive, vu que le film bascule au bout d'un moment vers le mélo, avec Tahar-Rahim qui s'en va avec voilà, celle qu'on imagine être devenue un fantôme, pour un road movie à travers la France, tout comme Vers l'autre rive l'était vers le Japon. Bah, c'est quand même la dernière partie du film. Du coup, effectivement,
il y a cette interrogation
sur ce qu'elle est devenue.
Et puis la manière
on retrouve cette thématique-là qui est quand même assez forte.
Et puis ça rappelle aussi Vers l'autre rive et la manière dont va plus ou moins s'évaporer le fantôme à la fin, du film. Quoi.
Et sinon, pour revenir sur le côté social qui est en merde de tout le monde, justement, moi je trouve qu'il est assez bien traité en fait. Que justement, pour un japonais, la vie de Tahar-Rahim qu'il décrit est assez fidèle à la vie d'un jeune français.
On a vu pire dans des films français.
Oui, les films français sont plus parodiques sur la vie des Français que comme ça. Genre, le mec il explique qu'il vient de l'île.
C'est pas que ce soit parodique,
c'est pas ça le problème. En fait, c'est pas ça le problème, c'est que pour le coup, je trouve que le mélange ne fonctionne pas. Alors que ça fonctionne quasiment dans tous ces films, je trouve que ça fait des coupures de rythme, des coupures dans l'atmosphère du film qui me sortent complètement du film en fait. C'est pas que c'est pas réussi ou que c'est moins
c'est
réussi.
C'est pas que ça sonne faux,
ça me sort du film.
Moi justement j'ai trouvé que Kurosawa avait réussi à s'adapter et même s'adapter à comment la France avait traité le fantastique quand elle le faisait genre dans sa littérature du 19e siècle.
Attends, juste ça c'est l'aspect photographique.
Non mais ça c'est pas le problème ça.
Ça c'est bien, c'est une partie est vachement bien réussie. Mais justement, t'as des parties un peu inquiétantes où tu retrouves... Ce qui est bien, c'est que le film, au bout de 5 plans, même du premier plan, tu sais que t'es chez Kurosawa, et c'est toujours comme ça. Tu sais que c'est lui, il a un style unique, et tu le reconnais au bout de 2-3 plans.
Le décadrage, notamment sur le RER, où il filme pas
exactement.
RER, mais il filme...
Même quand il arrive chez le propriétaire, et que tu vois la caméra qui se décale vers la porte, tu sais que c'est chez Kurosawa, et tout ça. Mais, à un moment, en fait, t'as une séquence où ils sont dans la cave, et tout, il y a une apparition fantomatique de la femme de l'acteur français, j'ai plus... Dans l'autre.
Olivier Gourmet.
Voilà, Olivier Gourmet, merci. Et dans ce coup, pouf, tu te retrouves avec la scène où ils sont en extérieur, comme ça, et moi, ça me sort complètement du film.
Oui,
en fait, ça marche pas.
Mais justement, Kurosawa a toujours cet aspect très sec au niveau des enchaînements.
Oui, mais c'est là ça fonctionne dans les autres films. Par exemple, dans Before We Vanish, c'est que ça, les ruptures de ton, et ça fonctionne tout le temps. Là, je trouve que ça me sort du film, et ça fonctionne pas, en fait. C'est moi après peut-être, mais...
Alors,
c'est toi.
C'est pas que lui.
Alors on va revenir un tout petit peu en arrière pour un film qui sort là actuellement, qui est encore en salle, qui est Creepy, dans lequel il y a une affaire aussi immobilière. Justin, est-ce que cette recherche de maison dans Creepy t'a semblé aussi caricaturelle que celle dans...
Non, puisque déjà ça prend beaucoup moins de temps, on ne cherche pas un contrat pendant 45 minutes.
Dans un tiroir de bureau.
Voilà.
Mais ça montre bien la France, justement.
Ouais, c'est ça.
C'est ça la France.
C'est plus facile d'acheter au Japon, apparemment.
C'est un pays de pénurie administrative.
Non, là, c'est-à-dire le personnage s'installe, découvre leur voisinage, et puis l'intrigue s'emballe, et puis c'est parti. Quoi. Donc il n'y a pas cette lourdeur, c'est même pas français, c'est juste l'intrigue qui patine sur des détails administratifs.
Oui, mais des détails administratifs français.
Alors on va enchaîner sur Creepy. Du coup, Justin, si tu peux juste nous resituer un peu l'histoire du film.
Oui, donc c'est une sorte, moi je trouve, c'est vraiment une sorte de parallèle à Cure. Donc c'est un personnage de policier, voilà, qui a une affaire qui se termine mal en ouverture du film pour lui, et donc il va déménager, il va quitter son métier de policier, il va s'installer dans un nouveau quartier avec son épouse. Et donc en parallèle, il y a des collègues qui lui demandent de l'aider sur une ancienne affaire en cours où il pourrait contribuer. Et donc il délaisse plus ou moins sa femme en replongeant dans sa ancienne vie de policier, et en parallèle, sa femme rencontre un nouveau voisin qui vit avec sa femme et son épouse, qui est un petit peu étrange, un petit peu intrusif, et donc le voisin va un peu vampiriser la femme, l'hypnotiser, puis l'assujettir. On va découvrir que c'est pas la première fois qu'il fait ça au sein d'un foyer, donc...
Quand tu vas un peu loin, comme le film est ancien, on va pas...
Voilà, voilà.
Donc il allait s'arrêter.
Et donc voilà, il y a toute une intrigue qui se noue voilà, autour du couple, de la femme délaissée, puis de l'affrontement avec, avec ce voisin.
Le voisin souriant, il est toujours...
Voilà, très souriant, très rieur. Et moi, j'ai vraiment trouvé un parallèle avec Cure, au niveau de ce côté hypnose, mais il l'amène d'une manière assez différente, là. Plus avec ce côté jovial, bienveillant, et tout d'un coup, il y a l'étau qui se referme. C'est une manière différente par rapport à Cure, mais j'ai vraiment trouvé un parallèle entre les deux, quoi.
Jérémy, je crois que tu as beaucoup apprécié aussi le film.
Ouais, en fait, c'est pas vraiment tout ce qui touche au couple qui m'a bien emballé, c'est plutôt tout ce qui touche au lieu et au comment ils gèrent les maisons, comment ils gèrent l'architecture, etc. Et y a vraiment quelque chose, je trouve ça encore plus creepy que ce personnage interprété par Kagawa qui est le vampire de service et qui va vraiment transformer la vie de ces personnages. Mais c'est plutôt comment il filme ces immeubles là, ces maisons où on a l'impression qu'ils arrivent et on sait que leur vie, elle est foutue, quoi. La femme répétera son mari sans arrêt, je me sens pas bien, je m'habitue pas, et on sent que c'est physique et que c'est vraiment quand elle arrive dans ces lieux, il y a un truc qui s'opère. Et c'est ça que je trouve ça fascinant dans le film, en fait. C'est vraiment ce côté, c'est pas que les gens qui vampirisent, c'est vraiment c'est tout ce qu'il y a autour c'est ça qui tient les gens vers le bas et qui rend les gens vraiment pas bien, etc. Donc c'est assez fascinant à regarder, en fait. Voilà.
Nicolas ?
C'est pareil, moi c'est exactement, enfin j'ai beaucoup aimé pour la même raison que Jérémy, en fait. Déjà il utilise, je trouve que depuis plusieurs films on retrouve ça dans Before We Vanish aussi, c'est qu'il utilise vraiment toute la technologie que le cinéma peut apporter, par exemple les drones, en termes de mouvement c'est vraiment très, très moderne en termes de mouvement de caméra, et pour instaurer cette ambiance un peu malaisante, un peu creepy, il utilise vraiment toute la panoplie que le cinéma peut offrir aujourd'hui, quoi. C'est très moderne. Et déjà, ça, c'est vraiment... Voilà, il s'adapte au fur et à mesure de ses films, qui s'adapte vraiment à la technologie. Et bientôt, il va peut-être faire un film en 3D comme Tu es Hark. Enfin, voilà, quoi.
C'est pas annoncé, non.
C'est pas annoncé, mais peut-être, on sait jamais. Il a l'air de voilà. Mais du coup, j'ai bien aimé ça. Évidemment, le personnage joué par Kagawa, qui est absolument terrifiant, et la manière dont il le filme, qui est impressionnant. Et aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, les scènes d'interrogatoire qu'on trouve dans pas mal de ses films, qui arrivent. Voilà, tu regardes un film, une séquence d'interrogatoire dans une vieille série policière américaine ou française, et tu vois une scène d'interrogatoire chez Kurosawa, t'as l'impression qu'il y a 46 mètres d'écart, quoi. C'est vraiment la science de l'espace, du découpage, la manière de faire ressentir la psychologie de chaque personnage à un instant précis, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et on trouve vraiment ça dans Shokuzai, par exemple, dans la dernière partie avec la mer, la manière dont les personnages se déplacent dans l'espace et tout. C'est vraiment impressionnant. C'est là qu'on voit, qu'on voit la précision de mise en scène de Kurosawa et il est vraiment très maniaque, quoi, à ce niveau-là. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup. Après, j'ai un des petites réserves sur l'acteur principal, celui qui joue l'ancien flic. Je trouve qu'il est pas juste à bon
niveau. Mais justement, en fait,
il
est absent.
Il est absent. Ouais, mais il le joue mal, en fait.
Bah non, justement, il est vide.
Il joue mal le vide, en fait. Moi c'est
il est désincarné, le mec, tu le vois, quoi. C'est un fantôme, quoi. Il est là.
Il est un peu en décalage, il est toujours en décalage, je trouve.
Justement, c'est quoi, c'est le but?
Ouais, je sens que c'est le but, mais ça marche pas.
Il voit que le mec est dangereux.
Par exemple, le personnage de Paramatsuda dans Before We Vanish, il a aussi c'est un personnage qui n'exprime quasiment pas d'émotion, et je trouve qu'avec lui, la gueule de l'acteur joue aussi, mais je trouve que ça fonctionne mieux qu'avec l'acteur de Creepy, par exemple.
Le personnage de Matsuda revient dans l'humour froid qu'elle veut vite t'en parler, c'est-à-dire que tu t'attaches au personnage de Matsuda parce qu'il est rigolo, il fait des trucs rigolos, genre le mec il tombe bizarrement.
Oui, c'est vrai. C'est différent, mais je trouve que c'était un peu vraiment sa manière.
Tu sens que le mec il est ailleurs, il voit absolument pas ce qui se passe, et voilà. Et c'est que quand ça pète.
Ouais, mais à un moment c'est trop exagéré. Enfin, je veux dire, dans toutes ses réactions, t'as l'impression qu'il est toujours. Tu as l'impression qu'il a toujours il compte 3 secondes dans sa tête.
Même dans la scène inaugurale, où on voit la prise d'otage, etc. Là, il comprend rien, le mec, il fait n'importe quoi, tu le vois.
Au bout d'un moment, ça m'énerve, un personnage comme ça.
C'est pas que ça,
parce qu'il est censé avoir changé, effectivement.
Oui, mais il a pas changé, au fond.
Moi, pour le coup, je comprends très bien l'intention de Kurosawa dans la manière de diriger l'acteur. Après, je trouve qu'il y a quand même un défaut scénaristique.
Oui, aussi.
Qui est que les dialogues ne sont pas toujours bien écrits. Alors, effectivement, c'est des dialogues qui sont vidés de leur substance. Et des fois, ils regardent l'horizon et ils disent une phrase comme ça. Oui, maintenant, nous allons devoir l'attraper et passer à l'étape suivante. Bon, on peut se dire que c'est un peu grossièrement écrit. Donc, du coup, Kurosawa fait un pur exercice de mise en scène avec une précision implacable. Après, le scénario fait que...
C'est du polar, quoi.
C'est un peu grossièrement écrit parfois. Il n'y a pas vraiment de surprise dans le déroulement. Après, thématiquement, c'est passionnant. Et en termes de mise en scène, c'est impressionnant.
Sans le méchant, il ne tiendra pas forcément celui-là.
Un polar, ça repose.
En fait, je trouve, on va dire sans spoiler, le retournement de situation finale, je le trouve un peu gros, quoi. Enfin, il n'y a pas... Voilà, c'est l'impression que c'est bon.
Un petit peu, oui.
Oui, mais après,
je trouve que ça fonctionne d'autant mieux. Sans spoiler, je trouve que ça fonctionne d'autant mieux quand tu as ce personnage flic qui se réveille à un moment donné sur la fin, qui réagit dans une scène clé à la fin. Je trouve que ça fonctionne d'autant mieux du fait qu'il ait été complètement.
D'une manière plus générale, on parlait de la veine nihiliste du cinéma. Je trouve que c'est pas assez nihiliste la fin, en fait.
C'est pas assez.
Nihiliste.
Non.
Il te dit qu'en fait, t'es foutu.
Il faut quoi de plus? Il y a une meuf, elle a perdu toute sa vie.
Je sais pas si on peut raconter la fin. Je sais pas si on peut parler de la fin du coup, parce que ça un peu.
Je préférerais pas. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec Kefren sur l'idée que j'ai pas l'impression qu'il y ait un retournement et que le scénario est extrêmement linéaire. Effectivement, quand on a compris la première scène, on a compris le personnage, on a compris le personnage du voisin et on sait à peu près tout ce qui va se passer.
Il y a pas de surprise,
bien sûr. Kurosawa nous dit en plus avec cette histoire, la manière dont voilà, il utilise ce MacGuffin qui va lui permettre de contrôler les gens, il nous dit, en gros, on s'en fout un peu du réalisme, de tout ce qui arrive. Et moi, j'ai l'impression qu'il fait la fin pour un plan sublime en voiture, où il y a tous les personnages dans un brouillard qui traversent la voiture. Et il fait tout ça pour pouvoir faire ce plan.
C'est un peu plan dans Cairo.
Vous voyez pas une petite note d'espoir quand même sur avec la dernière scène?
Pas trop.
En fait, il lui faut le mec pour se réveiller, il lui faut ça, quoi.
Oui, j'ai vu.
C'est dramatique, quoi.
C'est dramatique, mais je voyais pas. Je peux l'imaginer s'en sortir derrière.
Je pensais que ça allait vraiment. En fait, pour pas spoiler, je pensais que ça allait venir comme le début de Before We Vanish. Quoi. Je sais pas si, pour ceux qui l'ont vu.
C'est bizarre que tu dises que t'aimes pas alors que c'est assez nihiliste, alors que c'est toi qui à chaque fois défends ici.
C'est ça. C'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'il y a des films où le réalisateur appuie sur le côté nihiliste un peu vulgairement et artificiellement. Mais quand tu vas chez Kurosawa, par exemple, il y a plein de films qui sont nihilistes. Moi, je les aime bien parce qu'il y a une logique derrière, quoi, par rapport au personnage là, de joué par Kagawa. Et là, c'est logique parce que c'est lui qui domine le film tout le long, en fait. C'est lui qui dirige la danse, quoi, entre guillemets. Donc, c'est le retournement final, je trouve qu'il est trop gros par rapport à un personnage qu'on a présenté comme quelqu'un qui est quasiment omniscient. Qui a aucune faille,
et d'un seul coup. En essayant de pas spoiler, c'est quoi que t'appelles le retournement?
Si, mais vois ce qu'il veut dire. Mais il n'y a pas de retournement. Ouais. En fait, il te montre dès le début que ce personnage-là, il c'est un lâche, déjà à la base, et qu'il fait rien lui-même. Et qu'il
je parle du méchant.
Il te le présente comme un pleutre, le gars, il ne fait jamais rien.
Mais en même temps, il y a un côté tout long où il te fait comprendre que derrière cet aspect où il est. Ou l'impression qu'il fait faire les trucs par les autres.
Non, mais la livraison.
Il a quand même un côté où il n'a pas de faille. Quoi. T'as l'impression qu'il dirige tout
le monde. Sa faille, c'est justement d'être tellement omniscient. Il se pense tellement omniscient qu'en fait, le gars, à la fin, il
Ouais, mais c'est un peu facile, je trouve.
Enfin, c'est le classique du film policier, quoi.
J'ai trouvé ça un peu facile, quoi. C'est-à-dire que.
Bon, au final, on a tout dit sur le film. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez vu.
C'est un peu la fin de Seven, mais en mode un peu moins. Sauf que
Seven, c'est vraiment nihiliste pour le
coup. Mais Kevin Spacey, c'est le même personnage, voilà. C'est ça que je veux dire.
C'est-à-dire que lui, il a tout gagné, alors qu'au final...
Il n'a pas tout gagné, il est mort.
Ouais, mais c'est ce qu'il voulait, au final.
J'ai gagné. Il a gagné.
Lila, tu voulais rajouter quelque chose sur Creepy?
Oui, bah justement au sujet de ce personnage, je trouve que c'est assez intéressant parce que bon, j'ai vu The Girl from the Underground récemment. Ça vient beaucoup plus tôt dans sa filmographie, mais c'est assez intéressant de voir qu'on est dans une approche totalement opposée du méchant. Parce que dans The Girl from the Underground, bon, on a une femme qui va être plus ou moins poursuivie sur son lieu de travail par donc un gardien qui vient d'être embauché, qui est une présence assez menaçante. Et on est vraiment dans un huis clos, ça se passe beaucoup dans l'entreprise, dans les salles d'archives, des sous-sols, des endroits très clos, très, très oppressifs. Et donc ce fameux garde, c'est un ancien sumo, donc il est énorme, il a une très grande force physique, et on le voit presque jamais, et quand on le voit, on sent que c'est pas une personne extrêmement brillante, on va dire. Et donc tout est misé sur sa présence physique et sur la force qu'il est supposé pouvoir déployer. Alors que là, dans Creepy, on est quand même dans un environnement qui est plus ouvert, qui est le voisinage, bon, il y a des arbres, etc. Même si c'est pas extrêmement positif et extrêmement émancipateur comme environnement, on a quand même voilà, la rue, enfin, on n'est pas enfermé physiquement. Le personnage du voisin est très présent, on le voit tout de suite, on le voit beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est impressionnant physiquement, c'est pas quelqu'un qui commet des actes brutaux lui-même, mais c'est quelqu'un qui va manipuler son entourage par son esprit et qui va pousser les événements dans le sens où il veut, mais sans avoir cette force physique. Et c'est assez intéressant de vraiment voir qu'il y a deux approches qui sont radicalement opposées, où l'un est très basique finalement, on est sur une menace un peu cachée de quelque chose de brutal, et l'autre qui est une peur que j'estime beaucoup plus moderne, beaucoup plus ancrée dans la société, d'un personnage qui au vu et su de tous agit, se montre, sourit, salue ses voisins, mais qui derrière a son propre agenda, ses propres intentions. Et je trouve que voilà, à l'époque The Guard from the Underground, etc., je sens un peu chez Kurosawa l'envie d'un peu de se conformer à des schémas qui sont à peu près confortables. Et là, il y a vraiment une prise de risque, même si effectivement ça reste des schémas qu'on a déjà vus, notamment dans Seven, mais qui est déjà quelque chose d'un peu plus difficile à manipuler. Et dans ce sens, j'ai trouvé que ce film était assez intéressant dans son développement, dans sa carrière.
C'est un film de Kurosawa d'avant son mouvement d'auteur en fait. Donc c'est un film un peu de anecdotique et tout. Il est juste artisan sur le truc. Alors que quand il a commencé son mouvement d'auteur à partir de Cure, tous ces méchants sont à peu près comme Kagawa dans machin. Ils sont tous soit lâches, soit ils utilisent des subterfuges très vicieux, des trucs comme ça. En fait, il a toujours resté sur ça. C'est The Girl from the Underground, c'est genre un truc d'avant qui devienne le Kurosawa qu'on connaît actuellement, enfin, qui entreprenne son mouvement d'auteur en fait.
Mais effectivement, je trouve que dans Creepy, c'est particulièrement abouti et on sent qu'il arrive vraiment à avoir. Le méchant fait le film. Effectivement, dans Cure, etc., on avait déjà des personnages qui étaient intéressants, mais c'est pas forcément ce qu'on retient. On va peut-être retenir ses méthodes, ses actes. Mais là, vraiment, c'est la phase de Kagawa qui revient quand on passe ce film et qui a ce charisme malsain qui est assez prégnant dans le film.
Et encore une fois, c'est surtout ce qui l'a rend impressionnant. Tu disais que justement, il n'avait pas de force physique, paraissait presque frêle. C'est la manière de filmer Kurosawa et la manière de diriger. Sa démarche, par exemple, quand la manière dont il marche, c'est ce qui fait ce qui le rend terrifiant. C'est juste sa démarche, la manière dont il marche.
C'est un monstre. Il a créé un monstre et il a ses petits, il a ses gimmicks quoi, et on le reconnaît, et dès qu'il arrive, on sent sa présence, on arrive à vraiment le sentir, et même s'il n'est pas dans le plan, il est là, il est tout le temps là, et c'est ça qui est intéressant dans le film.
Gaël, tu veux rajouter quelque chose sur Creepy?
Non, mais quand j'avais vu en Suisse là, pour le Back Movie, c'est vrai que j'avais vu le film à ma manière, c'est-à-dire avec vraiment une vision assez politique de
Bizarrement.
Non.
Et c'est vrai qu'au départ, je trouvais que c'était un peu mon fin, que je forçais un peu en fait. C'est-à-dire que j'appliquais des choses qui n'étaient pas forcément dans le film, juste parce que, voilà, parfois j'aime bien...
Tu peux nous résumer du coup ta vision du film hein.
Ma vision, ouais. Non, enfin, moi, l'histoire du film, de ce voisin souriant qui finit par manipuler un peu tout le monde... moi ça m'a plutôt fait penser en fait enfin
à Macron.
c'est au monde de l'entreprise quoi, enfin que c'est une nouvelle méthode de management où le patron est toujours souriant, toujours avenant, mais en fait il oblige tout doucement les employés à faire des saloperies et entre eux en fait. Mmh. Et donc voilà, je l'avais vu ce film un peu de cette façon-là. Maintenant je pense que c'est un peu forcé par notamment enfin on, là en reparlant
non,
de
non
de,
il
de,
a, donc, c'est pas faux
parce
faux.
Que dans le traitement politique de Kurosawa, enfin si la société japonaise dans son organisation
c'est un peu dans
une vision management de la société. Donc,
c'est pas idiot.
Voilà. Et du coup, donc, alors, je pense qu'on va garder Before We Vanish qui aussi porte un sous-texte politique, à mon sens assez ambigu, on en avait parlé un peu à Cannes. Mais comme il sort en novembre, bah, on va attendre du coup, que tout le monde puisse le voir pour en parler. Donc ça sera dans un podcast prochainement. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent rajouter des choses sur Kurosawa et notamment parler d'un film qu'on n'a pas évoqué dans sa filmographie ou un film qu'il faut voir absolument selon vous. Donc pour revenir sur les films importants, je pense que vous l'avez compris, il y a Shukuzai, il y a Kairo, il y a Cure, il y a Creepy aussi, dont on a beaucoup parlé et qu'on vous conseille. Tokyo Sonata, c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas assez parlé, mais qui est certainement un de ses sommets de sa carrière, où il est considéré comme un auteur et qui date de 2008 et où il fait vraiment un film social extrêmement important
sur le Japon.
Donc je sais pas, je vous laisse la parole. Voilà, c'est une carte blanche, Jérémy.
En fait, je voulais pas parler d'un film, mais je trouve ça vraiment intéressant, le Kurosawa d'aujourd'hui, où il arrive vraiment, il y a ces deux facettes qui sont là. C'est ce côté vraiment, bah, comme dans Creepy, où il y a un truc vraiment assez noir, assez nihiliste, etc. Et il y a un autre côté, comme dans Reel, par exemple, où il y a un lyrisme assez échevelé, ou un truc comme ça, où il y a une émotion assez lyrique, quoi.
Tu vas retrouver ça dans
l'explosion des mots. Oui, voilà. Il y a ces deux choses qui s'emboîtent. Et je pense que le cinéma Kurosawa va évoluer vers ça en fait. Il va vraiment réussir à fusionner ces deux aspects là. Mm. Parce que là, je trouve qu'il alterne un peu.
Voilà, c'est ça. Ouais, en fait, t'as l'impression qu'il alterne. En fait, il a son film un peu plus comme ses anciens, quoi.
C'est ça.
Et puis là, il a sa veine un peu qui commençait par vers l'autre rive. Before We Vanish, Real, c'est un peu la même.
Il l'a fait un peu dans Secret de la Chambre Noire, je trouve, en fait, de mélanger les deux.
Il y a toujours les fantômes, il y a toujours l'angoisse, etc. Mais ça part toujours
par exemple, dans Real, à la fin, il y avait toute cette séquence avec l'espèce de dragon des eaux. Voilà, dans Vers l'autre, tu as toute une espèce de côté un peu lyrique du fantôme.
À un moment, il explique l'univers et tout, et c'est hyper.
Oui, il te fait un cours magistral, en fait. Il est assis, il fait un cours aux autres, et.
Et pareil, dans Before We Vanish, t'as un moment, t'as un côté un peu blockbuster américain.
Il y a un côté lyrique, un côté métaphysique qu'on retrouvait pas forcément avant, sous cette forme en tout cas, mais là, il y a vraiment un truc qui se passe. Après, c'est l'influence du cinéma américain aussi, je pense, qui s'insinue de plus en plus, parce que Reel, pour le coup, c'est vraiment Spielbergien, il est mort. Ouais. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant, et j'aime bien quand Kurosawa, justement, dans l'émotion, se lâche un peu, j'aime bien, voilà.
Après, il y a un côté très théorique, du coup, qui n'a pas du tout Spielberg, par exemple, que ce soit dans Reel, et que ce soit dans Before We Vanish. Donc, justement, je ne voulais pas trop qu'on en parle, mais...
On en parlait
plus. Du coup, il nous fait La Guerre des Mondes. Il cite plutôt Wells, d'ailleurs, que Spielberg, mais c'est des aliens qui volent des concepts aux humains. C'est-à-dire que la guerre se fait par une appropriation conceptuelle, au sens propre. qui l'illustre de manière extrêmement littérale. Donc voilà, on est. Et pour moi, Reel fait aussi penser à du Alain René, donc autant qu'à du Spielberg parfois. Donc on est dans ces deux veines-là aussi, quoi. Il entre pas dans voilà. Je sais pas si l'influence hollywoodienne est toujours là. Je pense depuis le début.
Je pense qu'elle est là quand même.
Mais elle est indéniablement là. Mais en même temps, il y a quelque chose de.
Mais il y a ça aussi dans Monsieur Ouvani, c'est-à-dire que ça mélange vraiment de tout, quoi.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut partir dans différentes directions. Et
dans Monsieur Ouvani, juste pour décrire une scène, t'as un moment, le personnage est poursuivi par un drone qui lui balance des missiles et c'est filmé comme un blockbuster américain.
Ah, ça fait bien ça.
Non, mais.
Non, mais
c'est exactement ça, quoi. Et tu vois, là, tu pars d'une scène super intimiste, super poétique entre les deux personnages principaux et t'arrives à un des personnages qui est poursuivi par un drone et qui se prend des missiles dans la gueule en plein séquence.
Qui est freinant. La mort aux trousses.
Ouais, exactement, c'est un peu la mort aux trousses, quoi.
Je pense qu'il a plusieurs influences et ça que j'aime, c'est insaisissable, quoi. Ça peut partir dans tous les sens et c'est jamais fait n'importe comment, en tout cas.
D'ailleurs, Hitchcock est une influence aussi extrêmement importante dans le cinéma de Kurosawa. Alors, Kefren 1.
Ouais, je voudrais parler de l'attribution, justement. Ouais. Qui est pas dans les coffrets et qui a nulle part, alors que c'est son meilleur film de fantôme, selon moi. C'est genre le film somme de tous ces films de fantômes avant, sauf que la mise en scène a atteint des sommets, il y a des trucs hyper vertueux avec la lumière et des trucs genre, à un moment, il a une vision à cause d'une flaque, et genre le fantôme apparaît dans une flaque et il voit des trucs, il y a des trucs hyper fascinants et intéressants plastiquement, formellement, qu'il n'a plus jamais retenté après, je crois, à part peut-être dans Reel. Mais c'est justement un film somme, et je pense que c'est pour ça qu'après il fait Tokyo Sonata, parce qu'avec Rétribution, il arrivait au bout de ses films de fantômes. Et justement, pour reprendre aux disciples de Kurosawa, justement pendant qu'il était prof, il a été prof de Shimizu, mais surtout d'une autre cinéaste japonaise qui s'appelle Mari Asato, qui elle reprend ses thèmes et continue les films de fantômes, mais du point de vue des jeunes filles, là où les films de fantômes étaient, les légendes de fantômes étaient à la base au Japon. Et c'est tout aussi intéressant que Kurosawa, voire plus, et elle est tout aussi vertueuse dans la mise en scène. Donc je conseille de voir les films de Maria Sato.
Très bien. Très bien. Et bah, du coup, on reviendra sur Before Uyani, je prends une inspiration qui sort en novembre. Et par ailleurs, on peut déjà annoncer que Kurosawa a terminé son prochain projet, qui est une série télévisée. Qui sortira aussi au cinéma sous une version cinématographique. Comme Shokuzai, sauf que Shokuzai, c'était la distribution française qui l'avait transformé en film.
Sauf que c'était vraiment une série.
Alors que là, du coup, il y aura les deux formats qui existeront en parallèle. Voilà, donc on en reparlera très bientôt. See you, Space Cowboy.
ご主人と僕とどっちが魅力的ですか？
待て、何が望みだ？
別に何も。
安子、俺が全力で君を守る。